Europe 1. Écoutez le monde changer.
Pour un écrivain, il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec, et la deuxième, c'est le succès.
On écrit pour que quelque chose subsiste.
Europe 1. 14h-15h. La voix est libre.
Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour pas un rond, quoi.
Nicolas Carreau.
Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix est libre, une émission de déconfinement par les livres, une émission ouverte comme la radio. Tous les invités se sont connectés au studio grâce à une application et ou leur téléphone, libraire et chroniqueur compris. Et Boris Paczynski est là bien sûr derrière la console pour assembler tout ça, merci à lui. On reprend les bonnes habitudes en commençant par la première phrase d'un roman culte. Aujourd'hui, alors chef-d'œuvre éternel, chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre presque, Don Quichotte de la Mancha, il commence par ces mots. Dans un village de la Manche, dont je ne veux me rappeler le nom, vivait il n'y a pas longtemps un gentilhomme de ceux qui ont lance au râtelier, bouclier antique, maigre roussin et lévrier chasseur. Un pot-au-feu avec plus de bœuf que de mouton, un sale picon presque tous les soirs, des œufs frits au lard le samedi, des lentilles le vendredi, quelques pigeonneaux de surcroît, le dimanche consommait les trois quarts de son bien. Don Quichotte, donc de Cervantes, bien sûr, immense classique, publié en 1605 déjà, dis donc, et bizarrement très moderne. Tout à l'heure, les libraires de l'émission nous rejoindront, les librairies sont fermées, mais ça ne les empêche pas de parler de livres, et puis nous visiterons la bibliothèque de Dave, le chanteur grand bibliophile. Mais d'abord, bien entendu, c'est l'invité, La Voix est libre, c'est parti, premier chapitre.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre. Nicolas Carreau.
Vous le connaissez pour le potentiel érotique de ma femme, La délicatesse, Charlotte bien sûr, ou son dernier roman. Deux sœurs, il fait aussi du cinéma et du théâtre, on va en parler un petit peu. Il ne s'arrête jamais, peut-être qu'en ce moment, si d'ailleurs, je vais lui demander. Tiens, bonjour David Fuenquinos.
Bonjour.
Comment allez-vous? Comment vous vivez ce confinement, vous?
Écoutez, ça va bien. Le temps commence à être un petit peu long. Moi, je suis confiné... à Paris, dans mon appartement, avec ma fille. Donc voilà, c'est assez physique et assez sportif. Pas le temps d'écrire ou de trop lire, mais voilà, c'est une période très particulière et on essaie aussi de voir le positif qu'on peut en tirer.
Est-ce que vous avez eu la tentation, tiens, de fuir vers un éventuel lieu à la campagne ?
Les choses se sont faites très précipitamment. Moi, j'avais pas d'opportunité ou de possibilité d'aller à la campagne. C'est vrai qu'en plus, bon, ici, je suis dans un appartement... sans balcon, avec une petite fille, c'est vrai que ça aurait été sûrement agréable, mais voilà, on a l'occasion quand même de pouvoir sortir un tout petit peu, une heure par jour. La chance, c'est aussi le beau temps et l'idée, voilà, de pouvoir aussi pouvoir prendre l'air un petit peu chaque journée. C'est vrai que je peux parfois, en regardant les réseaux sociaux, fantasmer sur les jardins ou d'autres coins plus accueillants, mais voilà, chacun essaie de faire au mieux et je pense que c'est aussi important que voilà, l'effort soit collectif.
Même question qu'à vos confrères, est-ce que la situation vous permet d'écrire sereinement et éventuellement plus que d'habitude, ou alors, parce qu'il y a moins de rendez-vous, etc., ou alors est-ce que l'angoisse, l'attente comme ça à l'extérieur bloque un peu le processus?
Moi, c'est une situation un peu particulière parce que je suis vraiment dans l'incapacité vraiment d'écrire, pas parce que j'éprouverais de l'angoisse, mais parce que je m'occupe d'une petite fille, voilà, toute la journée pratiquement, et c'est vrai que le soir, j'ai pas vraiment l'énergie de pouvoir me plonger dans un roman ou une écriture. Alors, il se trouve que j'ai terminé un roman début mars, donc j'étais arrivé pile à un moment donné dans ma vie création ou littéraire où, de toute façon, j'allais pas enchaîner avec une autre idée, donc ça tombe plutôt bien, j'ai pas de frustration de ne pas pouvoir écrire, mais pour moi, c'est pas du tout une période d'activité de création.
Y compris avec votre fille, ou est-ce que vous créez justement des histoires, des jeux? Est-ce que vous découvrez d'autres façons de vous amuser, quoi?
Oui, vous avez raison. On essaie d'être le plus créatif possible à ce niveau-là, ça c'est certain. Même d'un point de vue culinaire, on tente des choses. Je sais pas si je vais vous inviter
par exemple.
À dîner. Je sais pas si je vais vous inviter à dîner après le confinement, mais au moins on découvre plein de choses. Et puis c'est magnifique de passer du temps, voilà, avec un enfant, d'apprendre à lire, à commencer à former les lettres. Bon, voilà, je vais pas. C'est la vie de chacun, mais évidemment que trouver des jeux, de façon de nourrir le temps. en évitant de passer toute la journée devant des dessins animés, ça c'est certain que c'est une autre façon de création.
Est-ce que c'est une période aussi qui vous intéresse en tant qu'écrivain? Est-ce que vous aimez observer quand même? Est-ce que vous avez une fascination pour cette période, quoi, avec toute la tristesse qu'il y a aussi autour, hein, mais je veux dire, est-ce qu'en tant qu'écrivain, ça vous donne de la matière pour plus tard, ou en tout cas, vous aimez observer ce qui se passe et les comportements humains dans ces périodes inédites?
En tant qu'écrivain, on est toujours dans, voilà, à l'affût de l'observation de chaque chose de la société, de chaque élément, de chaque mutation, de ce qui peut former le quotidien de chacun. Là, je ne me considère pas comme un écrivain, mais comme un citoyen. Je pense qu'on est tous totalement... à la fois bouleversé par ce qui se passe, en solidarité totale avec tous les gens qui font qu'on peut traverser cette période si difficile. Et évidemment, en tant que spectateur de cette situation, on ne peut être que totalement dépassé et face à l'inconnu, face à ce qu'on traverse. C'est extrêmement déstabilisant. De d'affronter tous ensemble quelque chose d'absolument inédit et d'incertain. Évidemment, en tant que romancier, je vois beaucoup de situations qui peuvent se créer, qui sont potentiellement incroyablement fortes et romanesques.
Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que on a quand même l'impression d'être dans un roman, là. Tout est extraordinaire au sens littéral. Est-ce que ça vous intéresse quand la réalité est plus forte, quasiment, plus intense éventuellement que la fiction?
Là, la réalité dépasse tout, ça c'est certain. Même ce qu'on peut voir au quotidien, la relation entre les voisins, la façon dont les gens se parlent, se regardent. Parfois, on voit l'extrême de la solidarité, on voit l'extrême de l'agressivité aussi parfois, quand les gens se frôlent et s'angoissent. Dans la rue, on voit tellement de choses absolument inédites. Moi, j'ai plutôt le sentiment qu'il va y avoir beaucoup d'inspiration par rapport à tout ça, et beaucoup de gens vont, ou d'écrivains, ou de cinéastes, ou d'artistes vont vouloir parler ou de ce qu'ils ont vécu ou de ce qu'ils ont vu. Moi, j'ai plutôt le sentiment d'avoir envie d'écrire un grand roman d'évasion avec de l'espace, avec de la campagne, avec de la mer, avec de la montagne. Enfin, tout ce qui peut nous permettre d'aller vers l'ailleurs.
Qu'est-ce que vous lisez en ce moment, justement, je sais que vous n'avez pas de temps à perdre, mais qu'est-ce que vous lisez ou qu'est-ce que vous conseilleriez comme lecture en ce moment, vos livres préférés, quoi?
Alors, j'ai lu assez peu depuis un mois. J'ai lu le dernier livre de Leïla Slimani, que j'ai trouvé vraiment formidable, très, très fort, et très avec
le
un
pays
souffle
des autres.
Romanesque. Et j'ai eu la chance de me procurer en fait le prochain livre de Joël Dicker juste avant le début du confinement. Je sais que le livre devait sortir fin mars et j'imagine que la publication a été repoussée. Je sais pas quand, mais c'est toujours incroyablement plaisant de lire Joël Dicker. Je trouve que c'est très très loin de mon univers, mais je suis fasciné toujours par la façon avec laquelle il arrive à mener des histoires et j'ai pas pu profiter de ce confinement pour, comme beaucoup de gens, je vois sur les réseaux sociaux qui se remettent à lire Proust ou Dostoïevski, tous les auteurs qu'on espère avoir du temps pour pouvoir lire. Mais moi, je pourrais conseiller Romain Gary, qui est un auteur que j'adore et qui est à la fois extrêmement littéraire et en même temps, je crois, peut faire du bien parce que c'est un écrivain avec une telle puissance romanesque et d'évasion. Je pense que ça peut nous permettre de voyager en le lisant, et notamment La promesse de l'aube. Et c'est un livre que je conseille souvent, moi, aux adolescents que je peux croiser quand je vais dans les lycées.
Vous parliez de Leïla Slimani, dont le livre a été publié quelques semaines juste avant le confinement. Ça démarrait très très fort, elle était un peu partout. D'ailleurs, elle est venue évidemment dans La Voix et Livre nous parler de son nouveau roman superbe. C'est très cruel, ça, pour un écrivain, quand comme ça les librairies ferment au moment où on sort un livre important pour soi, quoi.
Je crois que c'est cruel pour beaucoup de situations. Sûrement plus difficile, évidemment, pour certains écrivains. Oui, sortir un livre et puis qu'il soit subitement amputé de l'élan qu'il avait, ou alors simplement ne pas publier un livre alors que, qu'on devait le publier. Il y a pas mal d'écrivains qui devaient publier des premiers romans, qui attendaient cette échéance. Évidemment, on pense surtout aux libraires. Je pense que c'est très, très difficile. Et au mois de mai, quand on va pouvoir sortir à nouveau et que les librairies vont rouvrir, ça sera important d'aller les soutenir et d'aller acheter des livres si on est dans la possibilité d'avoir du temps pour lire. Mais voilà, là, on parle de littérature. Je crois que dans chaque domaine, il y a des cas difficiles. Il y a des tournages qui se sont arrêtés. Il y a des pièces de théâtre qui se sont arrêtées. Voilà, pour la vie culturelle, c'est évident que c'est compliqué et c'est sûrement d'ailleurs le domaine qui repartira le plus tardivement. Je pense aussi au cinéma, aux salles de cinéma et à tous les exploitants.
Eh bien justement, restez avec nous David Fuenquinos. Je voulais justement vous faire parler un peu de théâtre. À tout de suite.
La Voix est libre.
Nicolas Caro.
De retour dans La Voix est libre, toujours avec David Fuenquinos depuis chez lui, évidemment. David, vous êtes aussi dramaturge. Vous aviez d'ailleurs, je crois, deux pièces de théâtre qui étaient en train de se jouer avant le confinement. Elles sont bien entendu arrêtées. Quelles étaient ces pièces et est-ce que vous savez déjà si elles vont reprendre ?
Oui, j'avais deux pièces à l'affiche. En plus, j'avais mis beaucoup de temps à les monter, puisque une presque 10 ans et une 7 ans.
C'est très rare, ça.
Et elles se sont retrouvées enfin à l'affiche, mais voilà, au mauvais moment. Mais j'ai surtout pensé aux comédiens parce que c'est un tel investissement et voilà, tous les gens qui travaillent dans les théâtres, ça a été très difficile. Donc j'avais une pièce avec Bruno Solo, Julien Boisselier et Mélanie Page qui s'appelle 10 ans après et la pièce marchait très très bien, donc on a la chance, on espère voilà, d'une reprise au mois de septembre si tout va bien, si les théâtres peuvent rouvrir, voilà, elle reprendra au mois de septembre. Et puis j'avais une autre pièce, notamment avec Cadmerade, Claudia Tagbo et Lionel Abelansky. On verra en fonction du programme des acteurs, mais voilà, j'ai bon espoir aussi qu'elle puisse reprendre. La pièce avec Cadmerade, c'est vrai que c'était un peu particulier parce que c'est une pièce écrite avec Amanda Sterz. On a mis beaucoup de temps à la monter, à convaincre Cad, et c'est vrai qu'il l'a mis en scène, donc il s'est beaucoup investi. Le spectacle a démarré très fort, mais il a pu jouer seulement une semaine. Donc c'est vrai que pour un spectacle vivant, ça a été assez difficile. Mais je pense que voilà, ils vont sûrement la reprendre l'année prochaine. De toute façon, on nage vraiment dans le flou et l'inconnu, y compris pour les tournages de cinéma, pour les sorties de films. Il faut attendre encore voilà quelques semaines pour y voir un peu plus clair.
Justement, en parlant de théâtre, on parle beaucoup de l'avalanche éventuelle de romans sur le confinement qui risque de débarquer cet hiver, mais c'est surtout de la matière à pièces de théâtre, en fait. Une scène, c'est jamais qu'un confinement, un huis clos avec des spectateurs, finalement.
Oui, c'est sûr qu'il y aurait beaucoup de scènes à faire dans les huis clos qui doivent se passer actuellement. On pourrait imaginer une version de Roméo et Juliette, mais qui se passerait mal, ou plein d'histoires, des gens qui se rencontrent et puis ils sont séparés. C'est sûr que c'est incroyablement romanesque. Il y aurait de quoi faire des pièces de théâtre, c'est certain. Mais je pense vraiment que les gens n'auront vraiment pas envie d'aller voir des histoires de confinement après cette période. Et qu'ils vont plutôt avoir envie de s'évader, et surtout si on ne peut pas voyager très loin ou si la reprise de la vie est compliquée. Je pense que la culture aura un rôle important à jouer pour nous évader.
La culture et la musique aussi, donc. Est-ce que, je sais que vous êtes un passionné de musique et que vous avez une guitare, est-ce que vous en jouez un peu en ce moment? Est-ce que vous, du coup, vous en profitez pour bosser un peu la guitare?
J'ai cru que vous alliez me dire si j'en joue au balcon à 20h, parce que tout le monde applaudit,
oui,
évidemment, à 20h, et c'est extrêmement émouvant, et on commence à voir des guitares, des violons, du piano, c'est une cacophonie assez émouvante et assez belle, et j'ai pas sorti non ma guitare, mais évidemment, avec beaucoup de temps libre, j'écris des chansons pour ma fille, on les chante, et je joue un petit peu, mais voilà, ça reste extrêmement amateur, et je crois que c'est mieux pour tout le monde.
Ah, vous manquez jamais un rendez-vous à 20h, vous tenez à y être, il se passe beaucoup de choses dans votre rue?
Il se passe beaucoup de choses dans ma rue, je peux pas comparer puisque je ne bouge pas de chez moi, mais oui, c'est, je trouve ça incroyablement fort. Ma fille m'a dit il y a quelques jours, moi plus tard je vais être docteur parce que j'ai envie qu'on m'applaudisse tous les soirs. Donc c'était assez touchant et émouvant. Évidemment il y a les personnels soignants, mais tous les gens qui nous permettent de pouvoir traverser cette époque. Je crois que c'est très très important de pouvoir avoir cette pensée symbolique on pense à eux toute la journée et pas que à 20h, mais c'est important. Et puis c'est un moment de communion aussi, de solidarité, parce qu'on se regarde entre voisins, et je sais que pour certaines personnes, c'est plus difficile que pour d'autres. Notamment, voilà, moi j'ai en face de chez moi une personne âgée qui est vraisemblablement seule, donc ce petit voilà, échange de regard et de sympathie est important, je pense.
On a fait les romans, on a fait le théâtre, on a fait la musique, il y a le cinéma aussi, et j'ai l'impression, peut-être je me trompe, qu'on redécouvre aussi des moments de cinéma. Il y a, la télé diffuse en permanence des films patrimoniaux, des vieux films français des années 60-70. Est-ce que c'est quand même pas un moment aussi où, si on veut regarder un peu le positif de la situation, de redécouvrir ces chefs-d'œuvre-là, quoi, de prendre un peu de temps pour regarder un film de 2 heures, ce qui est de plus en plus rare aujourd'hui, finalement?
Bah, pour les gens qui ont le temps, effectivement, qui sont confinés avec du temps libre, c'est évident que ça a permis de découvrir ou de revoir certains films. Moi, je revois beaucoup de films le soir, des années 80, des films que j'adore comme Je vais craquer ou Les Babacool ou La tête dans le sac, les films de Le Terrier, de Lozier, de Patrice Lecomte. J'adore le cinéma français des débuts des années 80. Et c'est vrai que j'ai l'occasion de revoir ces films que je n'avais pas vus depuis très longtemps. Et c'est sûr que ça nous permet ça. Mais on préférait, je pense, reprendre une vie normale, si j'ose dire.
Ça me fait penser, la semaine dernière, je crois qu'ils ont rediffusé Le Mystère Henri Pic, qui est un de vos films, en tout cas adapté de votre roman. Comment ça se passe dans ces cas-là? Est-ce qu'on reçoit un message très officiel de la chaîne qui diffuse en disant « Attention, ce soir, votre film va être diffusé » ou est-ce que c'est quelqu'un... Enfin, ou est-ce que vous tombez dessus par hasard ou vous avez un texto d'un ami? Comment ça se passe? Je suis un peu curieux là-dessus.
Quand c'est une première diffusion, en l'occurrence Le Mystère Henri Pic sur Canal+, c'est vrai qu'on est au courant, soit par la production, soit parce qu'on le voit, c'est assez visible dans le programme télévisé. Mais parfois il y a des rediffusions. La Chérie 25 a rediffusé le film La Délicatesse. Et ça, c'était assez, je suis tombé dessus par hasard, et c'est vrai que ça m'a forcément rappelé des souvenirs. Ça fait presque 10 ans qu'on a tourné ce film avec Audrey Tautou et François Damien. Et mon frère et moi, on était contents, voilà, de se dire que certaines personnes ont pu le voir à nouveau. Et surtout, ça nous permet de nous motiver en attendant de tourner notre prochain film, puisqu'on devait tourner le mois prochain notre troisième long métrage. Mais pour l'instant, voilà, les choses sont évidemment à l'arrêt.
C'est tout à fait confidentiel ou vous pouvez nous donner quelques pistes sur ce tournage et sur ce film?
C'était un film à sketch avec plusieurs histoires, avec beaucoup d'acteurs, qui tournait autour des fantasmes sexuels. Voilà, c'était une comédie qu'on avait hâte de filmer et de jouer. Mais bon, les acteurs s'embrassaient beaucoup, se touchaient beaucoup dans ce film. Donc je pense que voilà, on espère le faire bientôt dans des conditions qui seront forcément différentes. Voilà, on est à l'affût de toutes les nouvelles informations pour savoir comment et dans quelles conditions on va pouvoir tourner. Mais voilà, j'ai hâte de retrouver mon frère et toute notre équipe.
Ça, c'est un vrai film de déconfinement. Et puis, on pourra retourner vous voir au théâtre, enfin en tout cas vos pièces, le plus tôt possible, j'espère. Et puis, retourner en librairie, acheter vos livres dès qu'elles seront ouvertes. Merci beaucoup, David Fouenquinos, d'avoir partagé ce confinement avec nous. Merci beaucoup.
Merci à vous, au revoir.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre.
Nicolas Caro. Retour dans La Voix est libre, il est l'heure de se pencher sur un roman qui a marqué l'histoire de la littérature comme chaque semaine. Aujourd'hui, j'avais envie d'un bon vieux roman policier à l'ancienne, et donc j'ai choisi Agatha Christie, Le meurtre de Roger Ackroyd, publié en 1926. Voici les toutes premières pages lues par l'une des stars des livres audio, Thibaut de Montalembert. Exceptionnellement, je vous ai laissé la dédicace parce qu'elle est superbe.
À Punky, qui aime les romans policiers classiques, avec un cadavre, une enquête, et des protagonistes tous soupçonnés à tour de rôle. Chapitre 1. Petit déjeuner en famille. Madame Ferrard mourut dans la nuit du 16 au 17 septembre, un jeudi. On me fit appeler le vendredi matin à 8 heures précises. Il n'y avait plus rien à faire. La mort remontait à plusieurs heures. Il n'était guère plus de 9 heures quand je regagnai mon domicile. J'entrai par la porte principale et pris délibérément mon temps pour suspendre mes vêtements au porte-manteau du vestibule. Mon chapeau d'abord, puis le pardessus léger dont j'avais jugé prudent de me munir. Les matinées sont fraîches au début de l'automne. À dire vrai, j'étais assez préoccupé pour ne pas dire inquiet. Je n'irai pas jusqu'à prétendre qu'à cet instant, je prévoyais déjà les événements que me réservaient les semaines suivantes. J'en étais même fort loin. Mais mon instinct me soufflait que ma tranquillité était gravement menacée. De la salle à manger située sur ma gauche, me parvint un bruit de tasses entrechoquées, puis la toux brève et sèche de ma sœur Caroline. « C'est toi, James ? » appela-t-elle. Question superflue. Qui d'autre cela pouvait-il être ? Mais c'était bien à cause de Caroline que je m'attardais ainsi, et non sans raison. S'il faut en croire Kipling, la devise de la gente mangouste tiendrait en 4 mots « Va, cherche et trouve. » Et, selon moi, la mangouste conviendrait parfaitement comme emblème à ma sœur Caroline si elle devait avoir des armoiries. Quant à la devise, le dernier mot suffirait. Caroline trouve sans bouger de chez elle ni faire le moindre effort. Comment s'y prend-elle? Je l'ignore, mais c'est un fait. Rien ne lui reste caché. J'incline à croire que domestiques et fournisseurs lui servent d'agents de renseignement. Et quand elle sort, ce n'est pas pour aller aux nouvelles, mais pour les diffuser. Autre de ses talents, qu'elle exerce avec un brio confondant. C'est d'ailleurs ce dernier trait de caractère qui suscitait en moi l'hésitation dont j'ai parlé. Que je communique à Caroline le moindre détail sur le décès de Madame Ferrard, et en 1 heure et demie, tout au plus, la nouvelle aurait fait le tour du village. En tant que médecin, il va de soi que je suis tenu au secret professionnel. J'observe donc envers ma sœur une discrétion rigoureuse. En pure perte, il faut bien l'avouer, mais au moins n'ai-je rien à me reprocher. Il y a tout juste 1 an que le mari de Madame Ferrard est mort, et depuis, sans la moindre preuve, Caroline soutient que sa femme l'a empoisonnée. J'ai beau lui répéter inlassablement que M. Ferrard a succombé à une gastrite aiguë, aggravée par un penchant un peu trop prononcé pour la boisson, elle ignore superbement mon opinion. Il est vrai que les symptômes de la gastrite et de l'empoisonnement par l'arsenic sont assez proches, mais Caroline fonde ses accusations sur de tout autres critères, et je l'ai maintes fois entendu déclarer « Cela va de soi, il n'y a qu'à la regarder, voyons. » Bien qu'ayant dépassé ce qu'il est convenu d'appeler la première jeunesse, Madame Ferrard était encore très séduisante et ses toilettes d'une sobre élégance lui allaient à la perfection. Mais enfin, s'habiller à Paris n'est pas un crime en soi, et si toutes celles qui le font devaient être accusées d'avoir empoisonné leur mari... En proie à ces considérations, j'hésitais toujours quand la voix de ma sœur me rappela à l'ordre, non sans une certaine impatience. « Eh bien, James, le petit déjeuner est servi, qu'est-ce que tu attends ?» Je m'empressai de répondre. « J'arrive, ma chère. J'accrochais mon pardessus. Tu aurais eu le temps d'en accrocher 1/2 douzaine. » En quoi elle avait raison. J'entrai dans la salle à manger, déposai le petit baiser rituel sur la joue de ma sœur et m'assis devant mes œufs au bacon, un tantinet refroidi. « Bien matinal, cet appel, » constata Caroline. En effet, c'était King's Paddock pour Madame Ferrard. Je sais. Et comment le sais-tu? Par Annie. Annie, notre bonne à tout faire, est certes une excellente fille, mais une redoutable bavarde. Dans le silence qui suivit, je continuais à manger mes œufs, conscient de la curiosité de ma sœur. Quand elle flaire quelque chose d'intéressant, le bout de son nez long et fin palpite légèrement. C'était le cas. Eh bien ? Triste histoire, et rien à faire. Elle a dû mourir pendant son sommeil.
Le meurtre de Roger Ackroyd. Alors la fin, comme tous les Agatha Christie, est fabuleuse, mais celle de ce roman a une particularité. Je vous laisse la découvrir si vous ne l'avez pas lue. On se déconfine un peu dans un instant pour visiter la bibliothèque du chanteur Dave, grand lecteur de romans de science-fiction notamment, et oui, et collectionneur de livres rares. A tout de suite.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre.
De retour dans La Voix est libre, on va prendre un peu l'air, tiens, avec une attestation, puisque nous avons visité cette bibliothèque bien avant le confinement. Nous partons donc chez Dave, le chanteur. Bonjour Dave.
Bonjour.
Merci de nous accueillir chez vous.
Ah mais j'adore, si c'est pas parler de livres, venez quand vous voulez, jusqu'à 10h le soir, après je dors.
Et il y en a plein des livres d'ailleurs, ça tombe bien, et on est arrivé évidemment par le rez-de-chaussée, on est dans le 16e arrondissement de Paris, et vous m'avez dit, non mais on va commencer par là-haut, il y a un auteur dont je veux absolument vous parler.
Voilà, parce que donc, je trouve qu'il est
méconnu.
Voilà, dans les chansons il y a des gens méconnus après leur mort, comme je sais pas, Mabéco, Nougaro, très injuste, et dans les écrivains français, je suis toujours surpris que les Français ne connaissent pas Paul d'Ivoire. Le prénom Paul, c'est-à-dire des apostrophes, Ivoire. C'est un écrivain un contemporain de Jules Verne qui a écrit des livres extraordinaires qu'on peut trouver en livre de poche, parce que moi, je les ai dans une collection de l'époque.
Ouais, vous avez collection grand format de l'époque, grand format et rouge, un peu comme les Jules Verne, d'ailleurs,
pareil,
des éditions
Etel. Il y en a aussi, d'ailleurs, oui.
Alors, qu'est-ce que c'est, Paul d'Ivoire ?
C'est des livres d'aventure, c'est des livres... presque pour ados, quoi, ou pour adolescents interdits, comme je suis. Ça m'énerve que les Français ne connaissent pas Paul d'Ivoire, parce que c'est donc un contemporain de Jules Verne, avec le même style de livre. Et c'est des livres un peu d'adolescents ou d'adolescents éternels. Tiens, ça me fait penser sur mon album, j'ai dit adolescent étonné d'additionné tant d'années.
C'est
je suis un adolescent étonné d'additionné tant d'années, vraiment.
Parce que vous êtes encore adolescent, au fond ?
Ah ouais, je pense.
Vous leur lisez Paul d'Ivoire ?
J'ai un petit branleur, en quelque sorte.
Vous le relisez encore aujourd'hui, Paul d'Ivoire ?
J'ai relu, il n'y a pas longtemps, pas dans la version de ces grands livres, parce que là, tu te couches avec ça, tu ne tiens pas, quoi. Donc, ça existe en livre de poche.
Il y a le Sergent Simplet, les Semeurs de glace, Miss Mousquetaire.
Oui.
C'est quoi, ça raconte
c'est
quoi ?
C'est très connu. Alors, c'est un couple qui va se coucher au bord de l'eau, quelque part, en France, et puis... Ils entendent parler à côté d'un truc qui semble très étrange, un kidnapping, etc. Ils vont suivre, et après ils se font prendre, ils se réveillent sur un bateau, et après ils se trouvent en Indochine. C'est un livre d'aventure, mais extraordinaire, extraordinaire. C'est sur 3 livres, et il faut vraiment... Enfin bref, j'espère donner envie aux gens qui vous écoutent.
Vous l'avez découvert quand ? Parce que c'est quand un truc de gamin, ça.
J'avais 15-16 ans, je pense.
Vous étiez déjà en France ?
Non. C'était, je l'ai lu en hollandais.
Ah, vous l'avez lu en hollandais ?
Ah oui, complètement, oui, oui.
Et vous lisez toujours en hollandais ou pas ?
Très rarement. Je lis en fait en anglais et en français, et de temps en temps en hollandais, parce que en fait, les livres, c'est des rencontres, vous le savez aussi bien que moi. C'est un ami qui va lire tel livre, etc. Donc ça peut être un ami hollandais. Donc j'aime bien aussi être un peu au courant de ce qui se passe dans la littérature hollandaise, quoi. Mais par exemple, Dostoïevski, qui est un de mes écrivains, quand j'étais adolescent, fait partie de ceux qui m'ont fait un peu partir. Parce qu'il y a des gens qui vous donnent envie de voyager. Et
c'est à cause de Dostoïevski que vous avez tout quitté.
C'est plusieurs auteurs. Et il y avait le manager Kerouac, On the Road, sur la route en français, ouais, qui m'ont donné envie. Il y a un écrivain hollandais qu'on peut trouver en français, qui s'appelle C.S. Notenboom, qui a écrit un livre, Philippe et les autres. Et tout ça... a fait que j'avais envie d'aller voir ailleurs, quoi. Donc Dostoïevski m'a plutôt fait faire des conneries à cause de Crimes et châtiments, parce que je me suis pris un peu par Raskolnikov et je voulais essayer des choses interdites. Par exemple, j'ai volé un billet dans le portefeuille de mon père, panique à la maison, tout le monde est accusé et je n'ai pas tenu bon. À un moment, j'ai aidé à le retrouver. Pourquoi ? C'est moi qui l'ai volé, donc je l'ai retrouvé.
Est-ce qu'on l'a retrouvé ?
Je l'ai retrouvé sur un canapé, entre 2 coussins, où je vais le mettre. Donc.
Vous n'avez pas avoué le crime, quand même ?
Non. Je suis bon, mais pas ce point. Bon, mais pas con, quand même.
Sur Europe 1, La Voix est libre. Nicolas Carreau.
Et qu'est-ce que c'est, tous ces livres-là ?
Alors là, il y a quand même beaucoup de... un grand partie de mes livres d'enfants sont au fond de la mer. Ah, parce que les bateaux avec lesquels j'ai quitté... Moi, je suis parti en bateau. J'ai quitté les Pays-Bas en bateau. Et ce bateau, après, a continué sans moi. Et il est rentré dans un rocher, dans la mer Rouge. Et moi, j'y revenais régulièrement. J'avais quitté le bateau parce que le garçon qui j'ai quitté la Hollande, j'en étais éperdument amoureux, mais comme il n'était pas gay, comme on dit aujourd'hui, donc c'était difficile quand même dans la même cabine. À un moment, j'en avais marre. Et donc, mais c'est resté mon meilleur ami jusqu'à sa mort. Il est mort d'un cancer il y a pas mal d'années maintenant. Et tous mes livres d'enfance sont à 40 mètres de fond.
Mais comment ça se fait qu'ils aient continué sans vous, vos livres?
Ah, bah parce que j'y allais le rejoindre régulièrement, parce que j'avais encore de l'espoir. Jusqu'à ce que j'ai rencontré Patrick Vazot. Voilà.
Ah, c'est dur, ça.
Et donc, mais il m'en restait quand même un peu. Sinon, il y a des livres anglais.
Alors, c'est quoi ces livres-là?
Là, c'est beaucoup de hollandais, quand même. Là-haut, c'est mélange. C'est-à-dire, on n'a pas vraiment mis les choses en l'ordre. Par exemple, il y a du Stephen King. Voilà.
Oui.
Moi, j'ai une période de science-fiction très longue dans ma vie qui a vraiment... je ne regrette pas, parce que beaucoup de choses que j'ai lues dans le livre de science-fiction sont arrivées, même des choses graves et des choses horribles. Oui. Heureusement, pas tout ce que raconte Stephen King, parce que c'est quand même un chef des horreurs. Mais
c'est quoi votre préféré de Stephen King? J'adore aussi, c'est pour ça.
Oh, bah, le tour, l'histoire du tour. Là.
La Tour Sombre, qui a été adaptée en série télé d'ailleurs récemment.
C'est raté.
Vous avez regardé?
Non, j'ai vu un extrait, je dis c'est raté. Il y a un livre de science-fiction qui s'appelle Dune. C'est un livre de Frank Herbert. Ouais, vous connaissez?
Bien sûr.
Fantastique. Fantastique, ils ont essayé de le faire rater aussi, on ne peut pas. Moi, c'est marrant parce que quand mon père est mort, vous savez, à le moment de la séance après l'enterrement, il y a un monsieur, un vieux monsieur qui avait des larmes aux yeux et j'ai eu cette phrase qui sort de Dune, il donne de l'eau aux morts. Parce que l'eau était tellement rare, vous savez, sur Dune, vous vous souvenez. Donc donner de l'eau, il ne fallait surtout pas parce qu'on en avait peu, donc on ne pouvait même pas pleurer. Quoi. Et c'est pensé à ce moment-là, j'ai dit, merde, il pense à Dune pendant que ce pauvre homme pleure pour ton papa.
Mais les livres sont avec vous sans arrêt, en fait. Ah, vous regardez le monde par les livres, finalement.
Heureusement. Hein. Vers la cinquantaine, ce qui est quand même déjà il y a plus de 20 ans, j'ai compris que tout ce qu'on fait, c'est un peu pour oublier justement que la vie est une maladie sexuellement transmissible. Et donc, tant qu'on n'y pense pas trop, on est bien. Ça peut être un bon repas, un joli voyage. Mais bon, faire la cuisine dans mon corps, j'adore faire. Mais avant tout, lire, quoi. On est ailleurs quand on lit. Et donc, on ne peut pas être vraiment malheureux quand on est au bord de sa piscine avec un petit peu de soleil et un bon bouquin, quoi.
Mais vu ce que vous venez de me dire, les romans, ils ne vous servent pas seulement à vous divertir. Ils vous aident à vivre d'une certaine manière.
Donc, c'est viatique.
Comment?
Mais parce que j'y apprends des choses, parce qu'ils m'aident à vivre. C'est pour ça, c'est ça, viatique, quoi. Ils me permettent de voyager sans prendre l'avion et passer par la douane. Et puis, ils m'enrichissent, quoi. Je pense que c'est ça.
Vous avez encore des livres anciens, là, des petits formats. Vous aimez aussi le... Vous êtes un fétichiste du livre. Vous aimez avoir des éditions originales, des choses comme ça.
Vous avez vu avec Paul d'Ivoire, oui, j'aime bien ça. Puis l'odeur de livre, quoi. Maintenant, je ne suis pas contre prendre un Kindle pour prendre un grand livre dans un train et pas avoir des tonnes de livres avec soi. Hein, c'est pratique. Mais rien vaut quand même l'odeur d'un vieux livre, quoi. L'odeur des pages un peu moisies. Ça va avec mon âge, je suis moi-même un peu moisi sur moi. Allez,
attendez, c'est quoi cette pièce quand même là? Parce que moi je suis un peu, voilà, je suis curieux là. Je suis chez Dave, dans une ce qui a l'air d'être votre bureau, c'est là que vous composez?
Non, ça c'est la pièce de mon compagnon et c'est là où il écrit mes chansons.
D'accord.
Toutes les chansons de l'album qui vient de sortir, sauf une qui a des Renaud, ce qui m'a fait très très plaisir de chanter un texte de Renaud, parce que généralement il le chante lui-même. Et il m'en a donné une texte sur lequel on a fait mettre la musique par mon réalisateur Thierry Geoffroy. Sinon, les paroles, depuis 1974, sont de Patrick Vazot. Et lui a un grand bureau à lui. Moi, j'ai un petit coin ordinateur dans la chambre. Parce que moi, je ne travaille pas là. Moi, je travaille sur la scène. C'est pas pareil.
La voix est libre. Nicolas Carreau.
Donc là, on est au rez-de-chaussée.
Ouais.
Il y a deux guitares et il y a encore beaucoup de livres, de part et d'autre d'une belle cheminée.
Ouais,
c'est quoi les livres qui sont ici?
Il n'y a pas vraiment d'ordre, c'est ça qui est terrible. Il y a des livres là aussi, c'est assez désordonné. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, vous voyez, c'est-à-dire que moi, j'ai fait le lycée classique, comme on dit en France. Donc, c'est-à-dire que latin, grec, beaucoup de langues, quand même assez littéraire. J'étais rédacteur en chef du journal, donc j'écrivais. Donc, j'ai toujours été, comme vous disiez à juste titre, attiré par les mots, quoi. Belle chanson de Renaud sur son ancien album Le Mot. Très jolie chanson.
Et vous écrivez pas, vous avez pas un roman dans le tiroir qui...
J'ai écrit 3 biographies, ce qui est quand même très prétentieux, parce que 3 autobiographies.
Mais de la fiction. La fiction.
Ça m'est déjà venu. J'écrivais pas mal d'histoires courtes quand j'étais plus jeune, mais la chanson a poussé ça quand même beaucoup. Ouais. Non, je pense. En plus, je pense pas avoir le la discipline, c'est une question de discipline souvent, hein, la discipline nécessaire pour te mettre devant une feuille blanche le matin et écrire 2-3 heures. Avec les autobiographies, j'y suis arrivé parce que le sujet était tellement passionnant, mais modeste.
Qu'est-ce que c'est que ces livres bleus là, que je vois sous la télé?
Ça, c'est sur les livres de Van Gogh.
Ah.
Parce que Van Gogh...
Triote.
J'ai encore des Français qui pensent que Van Gogh était français.
Oui,
ça,
oui.
Ça m'énerve un peu. Et à un moment, j'ai failli jouer Théo Van Gogh dans un film Maurice Pialat. C'était assez incroyable. Ça n'a pas duré très longtemps. À un moment, Daniel Auteuil, qui fait partie de mes plus vieux amis et mes bons amis, et Daniel était pressenti par Pialat pour jouer Vincent Van Gogh. Et c'est Pialat lui-même, Maurice Pialat lui-même, qui a dit à Daniel, je sais que votre ami Dave est hollandais et ça m'intéresserait qu'il joue Théo. Et Pialat avait toujours une forme d'admiration assez simpliste pour les chanteurs. Ça l'épatait, les chanteurs. Et donc, on a fait un dîner ensemble avec lui, sa compagne, Daniel et moi. Et ça a fini avec, bon, ben, on se voit bientôt pour les essayages de costumes. On est parti dans la rue avec Daniel du restaurant. Je nous vois courir dans la rue un peu comme un pub pour une marque de cigarettes, main dans la main, en hurlant de joie. On va travailler ensemble de nouveau, parce qu'on avait fait ensemble quand même 2 ans de théâtre. Et on prend ma voiture, je repasse une petite rue, Pialat est au bord de la route, et il nous fait signe de nous arrêter, je baisse la fenêtre, il me dit finalement non. Donc ça a duré 10 minutes, quoi.
Sans autre explication.
Sans autre explication, c'était bien lui. Et après, avec Daniel, lui a commencé même à repeindre, à peindre, etc. Et lui aussi s'est fait envoyer promener. C'est Jacques Dutronc qui a fait le film. Donc quand même un chanteur. Mais Van Gogh de Pialat, c'est Jacques Dutronc. Voilà, c'est intéressant.
Dommage.
Ouais. Mais sinon, Van Gogh, évidemment, je le cite souvent parce que quand les jeunes gens me demandent aux vieux chanteurs que je suis comment il faut faire, je dis 3 lettres. C'est TTC, travail, talent, chance. Et un jour, j'ai fait une émission, un documentaire sur Maurice Chevalier qui disait « Faut avant tout avoir de la chance ». Et c'est lui qui a raison. La chance, c'est la chose la plus importante. Que ce soit un chanteur, que ce soit pour ouvrir un garage ou un restaurant, si tu n'as pas de chance, tu n'y arrives à rien. Et Van Gogh avait du talent, il a beaucoup travaillé et il n'a pas vendu un tableau de sa vie.
C'est terrible,
je
ça.
Je pense que son frère, Théo, n'était pas le meilleur manager du monde non plus. Ce n'était pas un bon agent, peut-être.
Bon, ben merci beaucoup, Dave, pour cette belle visite, pleine de livres et d'histoires. Merci beaucoup, Dave.
À bientôt.
Europe 1.
Retour en studio et dans un instant, direction les librairies. On les ouvre exceptionnellement pour La Voix et Livre. À tout de suite.
14h-15h sur Europe 1, La Voix et Livre. Nicolas Carreau.
Et il est l'heure de flâner virtuellement, bien sûr, dans les librairies, tout en restant confiné. Aujourd'hui, j'accueille Christophe Daniel de la librairie La 25e Heure à Paris et Thibaut Raden de la célèbre librairie L'Écriture à Vaucresson. Salut les libraires.
Bonjour Nicolas.
Avant de commencer, Christophe, vous continuez à garder un lien avec les lecteurs malgré la fermeture de la librairie.
Oui, on essaye de garder le contact avec les amis de la 25e heure et on leur propose quotidiennement sur Instagram, sur Facebook, des énigmes, des jeux littéraires, tout un tas d'activités aussi pour les plus jeunes. Voilà, on essaye quotidiennement de garder le lien et de proposer des distractions littéraires.
On se déconfine comme on peut. Comment on se déconfine, Thibaut, avec vous? Qu'est-ce qu'on lit?
Alors, on lit Terminus de Tom, alors excusez-moi pour le nom, mais Zweterlich, je crois, si je sais bien le prononcer. Terminus, c'est Albin Michel Imaginaire, donc c'est de la science-fiction. Et alors, pour être déconfiné, on est déconfiné parce que c'est un vrai plaisir et que en plus de voyager, on voyage aussi dans l'espace et le temps. Alors Terminus, c'est un bouquin qui parle en fait d'une agence spéciale qui s'appelle Shannon Moss et qui est du NCIS, qui dans les années 97 est en fait une agence vraiment très spéciale puisqu'elle a la possibilité de voyager dans l'espace et aussi de voyager dans le temps. Dans les années 97, c'est un programme ultra secret qui est donc dévoilé à personne. Elle peut voyager avec d'autres agents, évidemment, mais voilà. Et en fait, le Terminus, c'est la fin de toute vie sur Terre. Et quand on est agent du NCIS comme Shannon Moss, eh ben, il arrive qu'on puisse le voir. Et quand on dit le voir, ça veut dire qu'en fait, on arrive à une date donnée et à cette date-là, il y a le Terminus sur Terre. Alors, elle a de la chance, la première fois qu'elle le voit, c'est en 2177, donc on a le temps, nous. Sauf que quand elle revient dans les années, donc en 97, quand elle revient chez elle, elle fait sa petite vie, sauf qu'un soir, elle est appelée en fait, par le FBI parce qu'il y a eu un meurtre horrible dans une maison, dans un coin qu'elle connaissait en plus. Elle est dépêchée, elle ne sait pas trop pourquoi, elle y va. En fait, donc elle voit le meurtre absolument horrible, mais ça a un intérêt, toute cette violence, elle a un intérêt, et c'est ça qui est bien, justement, avoir de la violence qui est intéressante, qui donne qui nous lie tous les personnages, et qui a un intérêt pour l'histoire, ça fait du bien. Et donc, en fait, elle apprend que c'est le mari qui a tué toute la famille, donc même les enfants, sauf une qui a réussi à s'échapper. Et à travers ce carnage, elle apprend également que le Terminus s'est rapproché, c'est plus en 2177, mais ce serait en 2017. Et donc, en fait, elle va voyager dans le temps entre 97 et 2015 pour résoudre, en fait, ce meurtre. Parce qu'il n'y a pas que ça, évidemment. Je ne vais pas tout vous dire parce qu'il y a énormément de choses. C'est très florissant. Et en fait, on est tenu, c'est un polar de science-fiction. On est tenu du début du livre jusqu'à la fin dans une espèce d'ambiance apocalyptique terrible. Enfin, vraiment, à la fin du livre, vous n'êtes pas bien, mais en même temps, c'est génial. Et ça faisait longtemps que j'avais pas été... j'avais pas eu autant de plaisir à lire quelque chose comme ça, enfin, où on apprend des choses, parce qu'il y a un côté assez scientifique aussi, quand même, il faut l'avouer. C'est très cinématographique. Enfin, on a tout de suite envie d'aller au cinéma et voir ce film, parce que c'est l'écriture, elle est faite pour ça. Et ouais, c'est un vrai plaisir. On passe du coq à l'âne à chaque fois. Et enfin, en termes d'émotion, c'est vraiment des montagnes russes. J'en pouvais plus à la fin. Et c'est ça que j'adorais, quoi.
Et quand Thibaut Raden est enthousiaste comme ça, ça vaut le coup de se pencher sur la question. Alors vous, Christophe Daniel, vous avez un recueil de nouvelles israéliens assez génial, je crois.
Oui. Un recueil de nouvelles d'un auteur qui s'appelle Edgar Keret. Son recueil s'appelle Incident au fond de la galaxie. Oui, parce qu'on peut choisir de lire Proust ou Tolstoï pendant cette période de confinement, mais les nouvelles, c'est un format qui se prête bien aussi à cette période. Et puis, à tous ceux qui n'ont jamais lu Edgar Keret, j'ai envie de leur dire bienvenue dans son univers. Un univers absurde, drôle, désespéré, où Keret fait s'entrechoquer des mondes variés, hein, le monde réel, le monde virtuel, le monde fantastique, avec un humour corrosif et pour conjurer la catastrophe, parce qu'il est toujours question de catastrophe dans ses nouvelles, qu'elles soient intimes, personnelles ou des catastrophes historiques, il en est aussi question. Voilà, c'est un antidépresseur contre la difficulté d'être en général et en ce moment particulier que nous vivons. Donc il y a 22 nouvelles, on est entre Kafka et Woody Allen. Et ce qui est assez incroyable, c'est que dans la même nouvelle, on passe du rire aux larmes quasiment en un paragraphe. On a l'impression d'être dans une auto-tamponneuse continuellement où il joue avec nos émotions de manière virtuose.
Entre les montagnes russes de Thibaut Raden et les auto-tamponneuses de Christophe Daniel, on a de quoi s'amuser. Effectivement, Keret, moi je l'ai découvert avec ce recueil et c'est assez génial. C'est vrai. Je rappelle donc qu'on note sur un post-it tout ça, on le colle sur le frigo et on ira dans les librairies faire ses courses après le confinement à la librairie la 25e heure donc pour le recueil de nouvelles de Keret à Paris et à Vaucresson, passez voir Thibaut Raden pour Terminus à la librairie L'Écriture. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci Nicolas.
Dans un instant, Rayon Jeunesse, on rejoint ce grand enfant de Victor Dolland. À tout de suite.
Il était une fois.
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 Et comme chaque semaine, on retrouve le conseil littérature jeunesse de Victor Dolan. Bonjour Victor.
Bonjour Nicolas.
Et aujourd'hui, vous nous présentez un album un peu spécial intitulé « Maman, mets ton masque » d'Anne-Sophie Desander, illustré par Isabelle Bradfer-Burdet.
Oui, depuis le début du confinement, il y a plus d'un mois, on a tous pris une habitude, chaque soir à 20h, applaudir le personnel soignant à son balcon. Applaudir pour mieux remercier ces blouses blanches qui donnent énormément de leur temps en ce moment et qui prennent des risques aussi au contact des malades. Seulement, ces médecins, infirmiers, aides-soignants, brancardiers, volontaires mettent aussi leur vie privée entre parenthèses. Ils ont beaucoup moins de temps pour s'occuper de leurs enfants. C'est pour cette raison qu'Anne-Sophie Desender, infirmière en EHPAD, a voulu raconter cette histoire, celle de Sacha, un petit garçon qui voit sa maman partir tous les jours travailler à l'hôpital.
Et j'imagine que Sacha, forcément, il n'est pas très rassuré pour sa maman.
Bah complètement, sa maman essaie de le rassurer comme elle peut, mais dès qu'elle rentre, elle est fatiguée, elle dort pour récupérer de ses dures journées. Dès qu'elle a un moment, elle essaie de jouer avec lui, elle a aussi inventé des nouvelles façons de faire des câlins. Il y a les câlins ours, Sacha et elle se grattent le dos, les câlins coudes, la suite, c'est Léon qui vous la lit.
Elle me répète souvent que c'est son travail et que personne d'autre ne peut le faire. Mais moi, j'aimerais aussi qu'elle reste un peu plus avec moi. Certains jours, je trouve des mots doux dans les poches de mes pantalons avec un cœur ou un « je t'aime ». Elle a plein d'imagination pour me montrer qu'elle pense à moi même quand elle n'est pas là. Le soir, en ce moment, c'est papa qui me raconte des histoires. Il est marrant, papa. Il fait des drôles de voix.
Avec ce livre disponible seulement sur Internet, Anne-Sophie Desender souhaite juste apporter du réconfort et des réponses aux enfants des soignants pour qu'ils puissent mieux partager leurs doutes, leurs moments un peu durs. C'est vraiment un très bel album qui se transmet énormément en ce moment entre soignants. Et son auteur lance d'ailleurs un appel si un éditeur veut récupérer ce texte pour le distribuer au personnel soignant. Ce serait un très beau geste, selon ses propres mots.
Et on rappelle le titre de ce livre, « Maman, mets ton masque » d'Anne-Sophie Desander, illustré par Isabelle Bradfer-Burdet.
Vous retrouverez sur le site d'Europe1.fr toutes les références pour télécharger cet album. Et puisqu'on parle de la crise sanitaire, je voulais aussi citer cette très belle initiative de Gallimard Jeunesse, qui a choisi de rendre gratuit un livre intitulé « Le coronavirus expliqué aux enfants » de 5 à 9 ans. Un très bel ouvrage aussi pédagogique qu'utile pendant cette période. Et là aussi, je vous mets toutes les références sur notre site pour pouvoir le télécharger.
Europe 1.
C'était la dernière page de cette émission Confiné, déconfiné. Me reste à remercier Agnès Vaudin pour son aide et son carnet d'adresses, Xavier Joly pour la programmation musicale et laquelle, et puis évidemment Boris Paczynski, l'homme aux doigts de fée qui jongle pas mal avec les lignes et les connexions dans tous les sens. Merci à lui. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres livres qui déconfinent. À la semaine prochaine.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre. Nicolas Carreau.